La valse des watts, watt, 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 watt.
Chapitre 77. L'inorganisation des radios associatives.
Malgré l'urgence de la situation, les radios non commerciales s'avèrent incapables de se regrouper autour d'un objectif commun. Il est vrai que depuis 1994, l'ALO s'est décomposée.
Alors, je voudrais te demander pourquoi l'ALO a pratiquement disparu après 1994, et en tout cas était totalement absente des débats autour du nouveau plan de fréquence, maintenant en 1999, et déjà du décret de Mme Collins en 1997. Est-ce que c'est la résultante des échecs précédents, c'est-à-dire qu'on se serait trop usé, trop donné pour un combat, et puis qu'après, comme on n'avait pas eu ce qu'on voulait...
Il y a de l'usure, hein, ça c'est clair, et puis il y a aussi des morts et des blessés, ou des gens qui ont d'autres préoccupations. Il y a aussi la pression du monde du travail qui se fait de plus en plus sentir et qui fait que les gens ont moins de temps peut-être à consacrer au milieu associatif. C'est vrai qu'il y a des gens dont la radio a été arrêtée d'émettre et donc ils n'étaient plus intéressés de participer à des réunions au niveau de l'ALO. Il y a des gens qui ont quitté le pays, il y a des gens qui ont eu une autre orientation au niveau professionnel, familial, etc., qui les rendait nettement moins disponibles. Il y a eu des morts, comme Philippe Livreau. Et aussi, je pense qu'un des points, c'était le début de la dégringolade, je vais dire, de l'ALO, c'était le fait qu'il n'y avait plus un représentant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus eu d'informations sur ce qui s'y discutait, et les grands débats du moment, et donc plus de possibilités de consulter ou d'informer les autres, éventuellement de se mobiliser. Il y a quand même eu une mobilisation par rapport au décret de 97, avec une mobilisation d'ailleurs plus large que l'ALO, mais, et qui a abouti dans une légère modification, mais qui pour nous n'est quand même pas légère du tout, c'est qu'on insiste sur le fait des radios associatives, des radios culturelles d'expression, et les ministres qui se sont succédés depuis lors ont toujours juré leur grand Dieu qu'ils allaient faire respecter cela. Mais on attend.
À un moment donné, Marc-Antoine disait, au début des années 90, qu'on s'était trop défini de manière négative, les radios non commerciales, c'est-à-dire en critiquant les commerciaux et aussi, d'une autre manière, le service public, et qu'il était temps de se définir ensemble plus positivement, et même d'avoir une sorte de charte, de renouveler la charte de l'ALO sur un certain nombre d'objectifs que nous réalisions, donc qui auraient pu être présentés de manière positive. Est-ce qu'on n'a pas réussi à faire ce travail ?
Non, faute de combattants, dirais-je, mais c'est vrai que c'est un débat qui a eu lieu non seulement dans l'ALO, mais aussi dans d'autres organisations, que ce soit dans la Fédération européenne des radios libres, dans l'Association mondiale des radios communautaires, en France, la CNRL ou d'autres associations. Il y a ce problème de définition qui se pose, effectivement. Mais c'est sûr que quand on se trouve face à une concurrence qui crie haut et fort qui sont les plus beaux, les meilleurs et les plus forts, et les seuls à occuper le terrain, il faut se défendre et c'est pas facile, quoi. Et il ne suffit pas de faire, il faut aussi montrer, faire entendre que ce qu'on fait est important. Et ça ne transparaît pas toujours, dans la mesure où si vous avez des responsables politiques qui examinent le total du bilan, et que c'est ça qui compte, évidemment, avec nos quelques dizaines ou centaines de milliers de francs de total du bilan, on ne représente pas grand-chose au niveau économique. Si on parle au niveau culturel, évidemment, là, on veut bien en discuter, mais il faut qu'on trouve des interlocuteurs. Et c'est vrai que ça a un peu fait défaut, quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs pas uniquement dans les radios, c'est un peu en général. De temps en temps, quand on rencontre un attaché de cabinet, il nous dit « Mais ça a l'air intéressant ce que vous faites, faites-moi un dossier, puis... on peut en discuter, oui, tiens, l'éducation permanente, oui, c'est vrai, ou tiens, la défense de telle culture, de différents types de cultures, etc., oui, la lutte contre le fascisme et contre la pensée unique, c'est important, c'est vrai, venez me voir. » Et puis évidemment, 3 mois plus tard, quand nous, on a pu réunir à Grand-Panne un dossier, parce qu'on est quand même des gens de plutôt de paroles que des gens d'écrits, c'est un autre attaché de cabinet ou c'est un autre ministre et il faut tout recommencer à zéro. Donc je pense qu'il y a un peu une déficience au niveau du ministère, entre autres de la culture. On attend que les gens viennent les trouver, alors que c'est eux qui devraient aller voir ce qui se passe sur le terrain, voir, tiens, ça c'est intéressant, il faut l'encourager. J'ai l'impression qu'ils ne remplissent pas tout à fait leur rôle, quoi. Moi, il y a un manque de ce côté-là. Je trouve que quelqu'un qui s'intéresse à la culture, il va sur place, il va voir des peintres, il va voir des expositions, il rencontre les acteurs de la culture dans leur lieu de travail. Et j'ai l'impression qu'on se trouve un peu dans l'autre sens. C'est peut-être une réminiscence d'une façon de fonctionner de d'antan avec des copains. On finançait les copains, puis c'est tout, quoi. Et les autres, ils n'avaient pas la bonne carte du parti, ou je ne sais pas quoi.
Je crois que la loi s'est désagrégée parce que, en fait, je pense que, en partie, la loi est attachée à un moment historique, je pense. C'est un phénomène historique lié à un courant historique. Et donc, c'est la période de libération des ondes et tout ce qui a tourné autour. Je crois que la belle période de l'Halo, c'est la période des saisies, ce qui se passait rue de l'Inquisition. Enfin bon, il y a eu des moments de participation intense à ce moment-là. Et justement, de solidarité entre les radios. Et puis, à partir du moment où la menace n'a plus été celle-là, je crois que l'Halo a eu difficulté à se repositionner par rapport à une menace qui n'était pas une menace qui était immédiate et peut-être même un peu physique, concrète, quoi. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'à partir du moment où il n'y avait plus la possibilité de se retrouver autour d'un enjeu matériel précis et à court terme, chacun a peut-être porté son propre projet, hein. Et là, les projets sont apparus quand même comme étant un peu divergents, parce que à partir du moment où dans la même fédération, on a bien sûr des radios qui se disent toutes plus ou moins du même bord, mais dans lequel il y a quand même des profils qui commençaient à être de plus en plus divergents les uns par rapport aux autres. Et puis il y a un courant général qui a traversé toute la société, qui est quand même l'abandon des solidarités pour la recherche de l'individu, le positionnement plus individualiste et des gens et des mouvements, quoi. Je crois que dans la loi, il fallait beaucoup sacrifier au nom de l'intérêt commun et que chacun devait mettre un peu du sien, en sachant qu'il y avait des tendances et des tensions et tout, et que à partir du moment où chacun mettait du sien, on pouvait atteindre un objectif commun. À partir du moment où chacun a voulu être lui-même et à ne plus faire de concessions ou à participer, je pense que c'est ça qui a petit à petit réduit la loi à une peau de chagrin, où effectivement, alors, se sont retrouvés un tout petit groupe, qui peut-être, là, se retrouvait bien entre lui, mais pour qui la communication avec un univers plus vaste, finalement, finissait par devenir difficile, quoi.
Quand tu regardes l'histoire des radios libres, la loi a fait un grand travail. Si la loi n'avait pas été là, je crois que la situation se serait empirée beaucoup plus vite. Si la situation, la loi a su réussi à établir un barrage pendant 10 ans à une politique complètement commerciale ou à une dominance des réseaux, au développement des réseaux. Aidé bien sûr avec un autre enjeu qui était le monopole de la RTBF. Mais une fois que la loi est partie, on l'a senti la différence.
Il y avait quand même assez de place pour mettre une fréquence importante pour les radios associatives. Je pense qu'elles ont payé leur désunion et leur individualisme. Je pense qu'elles se seraient présentées au bon moment en réseau efficace. Elles auraient peut-être gagné quelque chose, peut-être pas vraiment un réseau communautaire, mais elles auraient peut-être gagné un peu de d'espace chacune. Donc je crois qu'il faut aussi s'interroger sur le mode de représentation, de lobby que ces radios peuvent constituer ensemble.
Et je pourrais vous dire ceci, c'est que je pense qu'une des qualités des radios associatives sur lesquelles on se rejoint est aussi malheureusement leur défaut. C'est-à-dire leur personnalité, leur individualité. Et pour le dire autrement, Si on avait eu un réseau des radios associatives qui auraient négocié comme les autres réseaux, je vais dire plus commerciaux, mais ça n'est pas insultant du tout dans ma bouche, avec des tonalités différentes, je crois que le débat aurait tourné autrement. Le problème, c'est que chaque radio associative étant isolée, elle se retrouve, et malheureusement, je partage tout à fait votre préoccupation, elle se retrouve reléguée dans ce qui reste. Donc on donne d'abord la couverture, la meilleure ou correcte, au réseau sur l'ensemble, et puis on dit voyons ce qui reste. Et dans ce qui reste, on se trouve effectivement avec des fréquences de qualité moins bonnes. Vous croyez que c'est impossible d'avoir un réseau de radio associatif ?
Je ne crois pas du tout que ce soit impossible.
Ah.
Je pense que nous sommes plusieurs artisans dans les radios à préparer les esprits pour édifier, élaborer un réseau qui serait alternatif, c'est-à-dire un réseau qui ne serait pas avec une tête de réseau qui impose évident. Toute sa programmation.
Oui, qui serait fédératif.
Qui serait fédératif. Oui. Et je crois que les moyens technologiques permettent maintenant justement de faire le choix dans un stock de programmes sans qu'une des radios soit la tête de pont.
Faites vite.
La première chose à faire pour les radios, c'est se mettre en fédération et tenir des revendications, ça c'est clair.
Entre-temps, une fédération des radios indépendantes est née, ayant l'ambition de regrouper tant les indépendants commerciaux que les indépendants non commerciaux, la FRLI.
Pierre Fassbender, président de la FRLI.
En deux mots, la fédération des radios libres et indépendantes est créée à la suite pratiquement d'une demande d'un peu tout le monde, à la fois aussi bien du CSA que du gouvernement que des radios elles-mêmes, en se disant on a plus d'intervenants, on a plus d'interface entre d'un côté les décideurs et de l'autre côté le terrain. D'où l'idée de créer cette fédération des radios libres et indépendantes qui regroupe des gens d'un peu partout. Donc cette fédération se veut un regroupement d'un maximum d'opérateurs indépendants travaillant sur le terrain en communauté française de Belgique. Et cette fédération se veut capable de défendre les intérêts aussi bien d'une radio, je dirais une radio étudiante, comme par exemple celle de Campus, avec des projets pédagogiques clairs et précis, aussi bien que d'une radio qui serait installée à Liège et qui aurait un but plus commercial. Toutes ces radios sont indépendantes, ont quelque part le droit de vivre.
Tu crois que ça peut être un avenir pour les radios associatives non commerciales comme Campus ou Panique de s'intégrer dans cette fédération des radios indépendantes, ne serait-ce que pour être défendu suffisamment lors du plan de fréquence?
Ouais, moi je crois que... Moi j'ai une opinion très pragmatique vis-à-vis de ça, quoi. Tout rassemblement d'une série de forces mais profitable. Campus, c'est bien, n'a pas toujours été comme ça. Et ça, c'est une des choses que j'ai envie de changer. Mais pas à n'importe quel prix, évidemment. Parce que c'est clair que l'objectif de ces cocos-là, c'est d'avoir une régie commune ou machin comme ça et grandir là-dessus. Et surtout, leur modèle, c'est les radios commerciales, quoi. Pas se voiler la face. Et donc, il faut être très, très vigilant par rapport à eux. Et à la manière dont on collabore avec eux. Mais maintenant, par rapport au plan de fréquence, etc., le ministre a déjà évoqué plusieurs fois le fait qu'il voulait un seul interlocuteur et que ce serait la fédération. Mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Puis je pense que ça lui donne un certain crédit aussi, que des gens comme nous y aillent, puisqu'on est un peu les vieux de la vieille. Mais c'est vrai qu'à mon avis, c'est indispensable, à côté de ça, faire un truc qui soit plus notre popote au niveau contenu, quoi. Ça, c'est indispensable.
Moi, j'étais plus, j'en avais discuté avec l'une ou l'autre personne, j'étais plus pour une confédération, effectivement,
qui pouvait
fonctionner sur une... d'avoir différents groupes, hein, d'avoir éventuellement une halo renaissante ou une autre forme de défense des radios associatives, qui sont quand même assez typique, je veux dire. Et plutôt que d'avoir aussi des gens qui sont finalement des commerciaux mais indépendants, quoi, mais qui ont peut-être aussi des raisons de se battre par rapport au réseau, et donc de faire entendre leur voix. En France aussi, hein, c'est le cas, il y a différentes associations qui travaillent éventuellement ensemble sur certains points ponctuels. Donc moi, je voyais plus une confédération qui permettait à chacun de garder, plutôt qu'un melting pot où on trouve tout et son contraire.
Et que personne ne l'oublie.
Ben ça, il faut absolument recréer une fédération, et peut-être justement autour de, d'autres valeurs. Parce que l'enjeu devient différent maintenant pour l'audiovisuel. Mais ça, on va le voir. Ben, y a pas... À savoir, l'enjeu audiovisuel, maintenant, c'est un enjeu qui devient international. Déjà. Maintenant, si tu regardes... Déjà, le décret là, 97 est en train d'être révisé, et le décret 97 va devenir un gros décret sur l'audiovisuel. Tu n'auras plus vraiment t'auras plus un décret pour les télévisions, un décret pour le CSA, un décret pour les radios. Maintenant, il y aura un décret sur l'audiovisuel et qui va tenir compte de tous les nouveaux moyens d'expression audiovisuelle qui sont notamment le multimédia, Internet, etc., etc. Et donc, les autres moyens aussi de diffusion. C'est pas seulement les ondes hertziennes, c'est aussi le câble, c'est aussi le satellite, et c'est aussi Internet qui va être considéré par ce décret. Et donc là, ça c'est une politique qui est aussi menée au niveau européen, et donc qui a été une politique qui a été notamment bien définie dans le livre vert en 97 sur le média, sur la société de l'information. C'est qu'il y a une convergence, des outils médiatiques au niveau de l'audiovisuel. Là, maintenant, tu vois, avec une radio sur Internet, tu peux combiner de l'image, tu peux aussi assurer des services après-vente. Avec une radio, là, maintenant, tu peux, pendant que la chanson passe, tu peux dire, voilà, clac, tu peux acheter, tu as directement la coordonnée du magasin, tu envoies ta fiche et tu as directement, tu achètes ton CD, il va t'arriver il t'arrive deux jours après. Donc il y a tout un aspect économique qui se développe maintenant avec l'audiovisuel. L'audiovisuel va devenir encore plus marchand, donc il va s'internationaliser et va devenir encore plus marchand avec, et où il y a, si tu veux, on va séparer la réflexion. Il y a d'une part la réflexion en termes de contenu, le contenu qui va être le producteur de contenu, et celui qui diffuse, celui qui maîtrise les réseaux de distribution. Là, maintenant, actuellement, au niveau de la radio, c'est nous-mêmes qui sommes distributeurs, c'est nous-mêmes qui avons l'émetteur, c'est nous-mêmes qui diffusons le contenu sur les ondes hertziennes. Mais là, déjà, au niveau d'Internet, si on veut mettre la radio sur Internet, on n'est plus le distributeur. On doit payer un abonnement, un câble, etc., etc. C'est plus nous qui sommes distributeurs. Et donc, suivant... Donc là, si tu veux, au niveau de la redevance, pour la diffusion hertzienne, c'est l'État. On doit payer une redevance à l'État. Sur Internet, on paye la redevance à un privé. Donc, il y a une privatisation du marché audiovisuel qui va se faire. Maintenant, justement, si, ça c'est peut-être une question qu'on peut encore aussi voir par après, l'avenir des radios serait peut-être, est-ce que cette bande FM, en ondes hertziennes, en analogique, ne pourrait pas être libéré justement et être un havre de paix pour nos petites radios, et que toutes les autres radios se mettent en multiplex puisque ça c'est plus adapté à leur demande au niveau structurel, puisqu'ils ont un réseau de fréquences et que pour que ces fréquences soient mises, donc que ces fréquences, pour qu'il y ait une seule fréquence sur tout le territoire qui soit diffusé à partir de plusieurs émetteurs, le numérique, c'est quelque chose qui devient possible avec l'onde hertzienne numérique. Et donc il règne, si tu veux, beaucoup plus de place, beaucoup plus de place qui serait donnée sur la bande FM, la fréquence modulée. Maintenant, ça je ne sais pas, parce que ce qui est possible aussi, c'est que maintenant, ce spectre-là, avec l'intensification des marchés au niveau de la bande spectrale, hein, que ce soit le service mobile, que ce soit... d'autres, je sais pas, maintenant justement avec contre le terrorisme, est-ce qu'on va pas le service militaire n'aura pas besoin encore plus de bandes spectrales, hein, pour mettre, si chaque pays doit mettre en place son système de d'écoute de tout ce qui se passe dans le monde.
Donc,
oui, peut-être qu'on va pas laisser la fréquence modulée aux radios, ou peut-être c'est quelques de peut-être l'État ou d'autres services privés qui vont se la prendre parce que ça rapporte c'est un marché intéressant. Donc ça, je ne sais pas, c'est l'avenir. Bon, je ne sais plus quelle était ma première question. Je tourne en rond, moi je suis débile, je vois que je viens de faire l'étude. Il y a tout qui se mêle. Là, l'autre, je suis fatigué.